propose qu'on écoute tout de suite Martine. Donc, le texte de Martine, il a un titre, mais je ne sais plus lequel.
Que dire ?
Que dire ?
Voilà. Ça commence bien. Alors, ayant la chance, parce que c'est une chance, au début j'avais mis des guillemets, puis je les ai enlevés. Je vous dis parce que vous ne pouvez pas le lire. Donc, d'inaugurer avec Laurence ces soirées, ce qui m'évite d'être inhibée par ce qui précède, ça c'est une chance. Je vais présenter une série de questions à partir des associations qui furent les miennes sur ce thème, la parole et son dire, thème que j'ai ardemment souhaité pour m'éclairer, suivant du verbe suivre, la conscience aiguë dont témoigne la fillette que je cite dans l'argument, déclarant que la façon de dire modifie les dits. Ça s'est passé peu de temps avant qu'on me demande l'argument, donc ça tombait bien. Tandis qu'elle me rapporte la remarque que lui fait un garçon, remarque qu'il a mise hors d'elle, je lui pose la question, parce que ce n'était pas tellement évident pour moi. C'est une insulte. Elle répond, ça dépend comment on le dit. Certes. Je propose donc une sorte de voyage dans ce que m'évoque ce titre, pas par la grande route que je laisse aux commentateurs suivants, commentateurs et commentatrices, nous avons l'année pour ceux, mais par les petits chemins, qui sont une autre façon d'aller d'un endroit à un autre, comme Lacan le dit le 20 juin 1956 dans les psychoses. Les petits chemins. Il y en a de moins en moins, mais il faut les préserver. À vrai dire, première question, cette expression couramment utilisée, dit-elle du dire vrai ou est-elle un dire propre à qui l'emploie ? Moi, en l'occurrence, ici, à vrai dire. Ce sujet m'a fortement intéressée car il interroge le fondement même de ma pratique. Alors j'ai trouvé, je vous fais part d'abord de mes difficultés. J'ai trouvé une difficulté insistante à distinguer les dits de l'énonciation, ceux inconscients de la chaîne signifiante, distincts de l'énoncé, et les dits du « qu'on dise », dont Lacan déduit la fonction du « dire » et qui n'est pas spécifique à la situation psychanalytique. Le particulier du discours de l'analyste, c'est son éthique qui commande de ne s'intéresser qu'à se dire du « on », « on » qui n'est pas « je », qui est donc une fonction logique où le subjonctif, qu'on dise, exprimant une possibilité, redouble la dépersonnalisation du sujet, grammatical et locuteur à la fois, pour souligner sa présence réelle. J'ai pensé à la question souvent posée, ce que j'ai souvent entendu, dans un groupe quelque peu inspiré par la psychanalyse lacanienne, lors des discussions politiques des années 70, d'où tu parles ? Est-ce que c'était le dire comme intention ultime qui était visée au-delà des dits proférés ? Donc voilà pour l'introduction. Je continue avec une rencontre qui continue d'ailleurs, elle aussi. Il entre, légèrement voûté, sous un sac à dos qui lui donne à la fois une allure d'éternel adolescent et de vieillard exténué. Et il commence à parler, ne s'arrête pas. Par contre, ça s'arrête. Phrase suspendue, mots coupés sans leur chute, souffle, pleure, et le cours des mots reprend. Avec une particularité, outre ces troubles du langage repérables, cet homme bégaye. Il bégaye et il ne le sait pas. Jamais une allusion à ce phénomène, qui pourrait n'apparaître que dans ce bureau où je le reçois, car à quelques occasions il s'est adressé à moi debout, à la porte, sans le moindre trouble de la parole, comme l'orthophonie nomme le bégaiement. Et si c'était un trouble du dire, un dire embarrassé qui en dit plus que ce que ce sujet dit de son égarement, une énonciation incarnée particulière d'adresse. Rien à voir, même j'ai commencé à faire des distinctions en travaillant là-dessus, rien à voir avec ce dont il se plaint un jour, debout, justement, et sans bégayer. Je n'ai jamais le temps de tout raconter. C'est toujours comme cela. Je sors et je n'ai pas tout dit. Je lui réponds, car à ce sujet, plutôt hésitant, je réponds, autant que je m'en souvienne, hein, que ce n'est pas la question, qu'il est de toute façon impossible de tout dire. D'ailleurs, cela m'a fait réfléchir à la formulation de la règle d'entrée, où il ne s'agit pas de tout dire, mais de dire ce qui passe. Le dire ne peut se prescrire. J'avais une autre vidette clinique, mais j'ai trouvé que c'était tellement décalé, je l'ai... avec un effet, l'effet de cette injonction de tout dire. Bon, la plupart, on en parlera si vous voulez, la plupart des personnes qui s'adressent à moi le font pousser par quelques conseils. Ça te fera du bien de parler. Ou bien par quelques injonctions. Il faut que tu en parles. Quelques années plus tard, quelques nombreuses années plus tard, et expérience dont certaines douloureuses, me voici avec un doute. Est-ce que parler pourrait ne servir à rien ? Et même pire, lorsque sous le blabla s'étale non pas la plage, mais le désert. Est-ce que je n'exagère pas un peu, momentanément découragée par mon impossibilité de déplacer de leur position d'énonciation des patients chroniquement bavardeurs, par des discours passablement répétitifs, entre autres ceux des politiques qui flambent en ces jours, et par mes propres limites d'écoute? Cette question du savoir-faire du psychanalyste trouvera prolongement lors des journées européennes en janvier à Barcelone. Parole, parole, parole. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots faciles, des mots fragiles, une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Je ne voulais pas chanter, mais vous la reconnaissez. Tout le monde l'a reconnue. Ce sont les paroles donc d'une chanson que je pensais que les moins jeunes d'entre nous reconnaissent, mais apparemment tout le monde l'a reconnue, de Dalida. Écoute-moi, au-delà des paroles, c'est certes un appel à un sujet supposé savoir, mais c'est à travers ce qui s'écoute que le dire peut se déduire. En me remémorisant cette chanson, j'ai pensé à la déclaration de Moritz dans l'éveil du printemps de Wedekind. Des mots, rien que des mots. À quoi bon un vocabulaire qui, sur les questions les plus pressantes de la vie, ne répond pas? Cette inadéquation des mots aux choses place de l'impossible dans l'énonciation, du trou. Mais derrière la plainte de Moritz, sous l'absence de mots pour dire le réel de l'impossible rapport sexuel qui mènera à la mort, autre figure du réel, certains des jeunes de l'éveil, à vrai dire tous sauf un, il n'y a pas à supposer du dire. Point d'interrogation. Il y a plein de points d'interrogation, j'espère que vous les avez entendus. Je reviens à la parole. Lacan n'a pas tenu la parole pour du vent, pour ceux qui s'envolent, alors que l'écrit reste. Il a même dit l'inverse. L'écrit pour la poubelle, la poubellisation, la parole pour la marque, celle que le sujet pourrait porter à son insu, comme le soldat romain portait sous sa chevelure repoussée, un message gravé sur son cuir chevelu. Du début à la fin de son enseignement, Lacan s'est préoccupé de la parole, mais pour la triturer, la redéfinir, en faire un nouvel objet. De la parole constituante de l'inconscient de fonction et champ de la parole et du langage en 1953, à la psychanalyse et son enseignement en 1957, où il écrit « Dans l'inconscient, ça parle, un sujet dans le sujet, transcendant au sujet », mais aussi la vérité de l'inconscient est à situer entre les lignes, jusqu'à l'invention assez tardive, octobre 1974, dans le triomphe de la religion, du par-lettre, qui se substitue pour partie au sujet de l'inconscient. Alors, une question de plus, un sujet transcendant à entendre entre les lignes, n'est-ce pas déjà une distinction entre parole du sens, du côté conscient, et dit de l'inconscient, d'où pourrait se déduire ou d'où pourra se déduire ultérieurement un dire. Toutefois, la parole telle que l'évoque Lacan au début de son enseignement et la parole du parle, du par-lettre, sont-elles les mêmes? Celle-ci n'est ni parole en l'air, qui ne dit rien, ni parole pleine, constitutive du sujet, porteuse du sens ultime, que Lacan a pourtant déclaré vite inapte à satisfaire à cette tâche, lui préférant le blabla comme voie, pas royale, mais voie quand même, vers le savoir inconscient. La psychanalyse, Laurence l'a rappelé, c'est une pratique du bavardage où la parole est à entendre dans, je cite, « la sorte d'éclaboussement qui en résulte ». Ça, c'est dans la première leçon du moment de conclure, donc en 77, novembre 77. Et si le parle de l'être, parle l'être, est plein, ce sont des résidus de la langue qui fait sédiment du savoir sans sujet qui accompagne l'être, ce qui reste du réel vivant, d'une jouissance grignotée par le langage. Ainsi dit Lacan dans la leçon du 13 avril 76 du séminaire Le Symptôme, chaque acte de parole peut espérer être un dit, espérer seulement. Cependant, un dit, si ce n'est plus tout à fait une parole, c'est-à-dire une fonction d'articulation du champ du langage, peut-il aller sans le dire ? Le dire, ce n'est pas non plus le bien dire, qui pourrait se définir hors du discours analytique comme l'énoncé de l'honnête homme, au sens paritaire évidemment, honnête femme aussi, celui que décrit Confucius. J'aime beaucoup cette définition. L'homme supérieur, c'est celui qui met ses paroles en pratique et ensuite parle conformément à ses actes. Bien dire, ce pourrait être, par exemple, faire un lapsus, ça en psychanalyse, et s'entendre ou pas, mais accepter d'avoir un inconscient qui parle. Bien dire, en ce sens, c'est un acte qui pourrait être porteur d'un dit. C'est bien loin du commentaire des dictionnaires qui définit le bien dire comme un mode, je cite, de langage facile, agréable, élégant. Évidemment, ce n'est pas dans ce sens que Lacan, qui se réfère à Spinoza, entend la chose, mais plus dans le rapport à une éthique où la connaissance sauve de la servitude. Il n'est malheureusement pas difficile de le prouver par son contraire avec les montées actuelles du fanatisme. L'ignorance mène à la servitude, fût-elle volontaire. Mais là encore, il s'agit de distinguer le savoir des connaissances et le savoir de l'inconscient, quoique la passion de l'ignorance puisse porter sur les deux. Je continue. Là où le bien-dire échoue pour partie, vous voyez, je veux le dire, le bien-dire, maintenant on va passer au dire vrai. Là où le bien-dire échoue pour partie, le dire vrai pourrait réussir, car il laisse passer le réel. Comme me le disait une patiente avec un certain humour ironique fort typique, « Je suis fêlée, tant mieux, ça laisse passer la lumière. » Le dire vrai s'entend si et seulement si coule dans la rainure du S2 du savoir inconscient. Le S2 du savoir inconscient. Je cite Lacan dans la leçon de février 74 des non-dupes R. Le savoir en tant qu'inconscient, c'est ça qui coule dans la rainure du dire vrai. Cela m'a éclairé un peu ou enseigné même sur ce que j'attends d'entendre d'une passe, un dire vrai de savoir qui soit singulier, personnel, authentique et qui laisse passer, sinon la lumière, en tout cas le dire. Car il n'y a de sujet que d'un dire, énonce Lacan toujours dans la leçon du 11 décembre 68 d'un autre à l'autre. Dire est un acte qui dit le sujet. Se répond à lui-même Lacan à sa question, à la question qui se posait au début de la même année, dans la leçon du 17 janvier du séminaire 15. L'acte psychanalytique, si l'acte est un dire, est-ce que la proposition peut être inversée? Donc il se répond à la fin de l'année, dans le séminaire suivant. D'ailleurs, l'enfant qui est moins débile que l'adulte, sur un niveau structural, hein, c'est normal, si je puis dire, Freud le regrettait, il sait que le dire ne va pas sans l'être. Tandis que les paroles, elles, excusez-moi, oui, les paroles, elles, peuvent être que ritournelles. Cheval de course, course à pied, pied à terre, on essaie. Si on le traite, formule moderne qui veut dire insulter, il répond, c'est celui qui le dit qu'il est. Bon, je conclue. Pour moi, l'énonciation poétique est la quintessence du dire, et même du dire qui se court, comme celui que Lacan dégage des discours, discours, bien que n'existe pas le discours poétique, il n'a pas écrit le discours poétique. Je cite la leçon du 11 janvier 1977 du séminaire « L'insu que c'est de l'une bévue ». Il faut rester au niveau où j'ai placé ce que j'ai en somme appelé les discours, les dix, c'est le dire qui se court. Il faut quand même bien profiter de ce que nous offre d'équivoque la langue dans laquelle nous parlons. Qu'est-ce qui se court ? Est-ce que c'est le dire ou est-ce que c'est le dit ? Dans l'hypothèse analytique, c'est le dire. C'est le dire, c'est-à-dire l'énonciation. C'est là où ça devient compliqué pour moi. Je ferme les parenthèses là. Mais ici, l'énonciation dont il parle ici, c'est du dire. Bon, c'est dire qu'il y a plusieurs niveaux dans l'énonciation. C'est du dire acte et non pas chaîne signifiante refoulée. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, c'est un point que je laisse en suspens, qui sera sûrement éclairé dans la suite. Cependant, dans la leçon du 15 mars 1977, du même séminaire, l'insu que c'est, Lacan remarque que la poésie aussi peut rater si elle n'a qu'une signification. Elle est alors parole vide, pas trouée, mais vide. Or, l'écrit du poème, citation de Lacan, l'écrit du poème fait le dire moins bête. Ça, c'est en janvier 1973, dans la postface au séminaire 11. Je ne résiste pas à la renvoyer sur ce point, quand même, j'avais beaucoup de citations, mais je les ai supprimées, la question de Mallarmé. Je cite, « Des paroles inconnues chantèrent-elles sur vos lèvres l'embaume maudit d'une phrase absurde ?» C'est extrait du démon de l'analogie. Vous voyez, l'analogie, il y a un démon. Un dire moins bête qui pourrait passer du maudit, les lambeaux maudits, au dire des mots dits. La phrase absurde est-elle le dire de Mallarmé ? Alors là, j'ai mis carrément deux points d'interrogation. Est-ce que l'écriture, particulièrement la poétique, permettrait d'approcher le réel du dire, car seul capable de rendre compte de l'équivoque, du trou de sens ? L'écriture n'est pas sans un dire poétique, même muet, me semble-t-il, qui fait que, je cite, ce lambeau de discours, faute d'avoir pu le proférer par la gorge, chacun de nous est condamné à s'en faire l'alphabet vivant. Donc je ferme la parenthèse, c'est une citation de Lacan extraite de la psychanalyse et son enseignement dans les écrits, citation qui est non seulement poétique, de toute façon Lacan écrivait d'une façon extrêmement poétique, mais qui signale, enfin c'est ce que j'y entends, évidemment dégagé du contexte global où elle fut écrite, ce qui permet de la traficoter, que chacun est, du verbe être, une incarnation réelle de la langue, en un seul mot, l'alphabet vivant, que tout ne peut se dire, mais seul un lambeau de discours, et qu'il y a un dire qui ne se profère pas par la gorge, qui est un discours sans parole, dont Lacan dit qu'il serait le comble du discours analytique. Mais comment dire sans parler ? Il faut remarquer que la parole est au singulier, comme d'ailleurs dans le titre du notre séminaire. Il ne s'agit donc pas de mots, mais d'autre chose, d'un peu de la langue, d'un peu de silence, d'un peu de dit, d'une autre chose qui se déduit, à laquelle les psychanalystes et ceux qui s'adressent à eux ont affaire. Un dire qui, dans la situation analytique, pourrait avoir des conséquences cliniques, espère Lacan, une fois que les analystes pourront en parler, acte au singulier, sans inhibition, dont il sera question dans nos prochaines, peut-être question dans nos prochaines journées en novembre qui sont sur ce thème, acte et inhibition. Voilà. Merci.